Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je suis Alexandre Kantorov, je suis né à Clermont-Ferrand en 1997 et je suis pianiste.
Quel était le rapport à l'instrument ? Qu'est-ce qui vous a attiré en premier ? Est-ce que c'est le son ? Parce que vos parents sont violonistes, mais vous, vous n'êtes pas violoniste, vous êtes pianiste. Alors, est-ce que c'est l'objet piano ? Est-ce que c'est le son du piano ? Est-ce que c'est possibilité du piano ? Si on pense au rapport vraiment, j'allais dire, au meuble, quoi.
Oui, je pense l'objet. L'objet est quand même fascinant pour un enfant. C'est quand même une sorte d'énorme bête qu'on peut pas trop dompté aussi quand on est...
Vous avez quel âge quand vous commencez?
Quand je commence, j'ai 3 ans, à peu près 3 ans, il y a un piano à la maison et je m'amuse dessus. J'ai essayé un peu le violon et voilà, je pense que ça renvoie à ma nature première d'enfant un peu flemmard qui veut aller vite. Et je le vois vraiment sur le violon où tout de suite, en fait, je veux jouer comme mon père le fait. Du coup, j'essaye par tous les moyens, en fait, d'y arriver et c'est impossible sur un violon. Et je pense que voilà, la patience est beaucoup plus testée quand même sur un violon que sur un piano où tout de suite on a un rapport facile au son, on a un rapport facile aux notes qui fait sens tout de suite. Et je pense que c'est par là que j'ai commencé à apprécier vraiment la musique. C'était juste ce plaisir, en fait, de voilà, de poser ses doigts, d'avoir un accord, en fait, simplement juste plusieurs notes ensemble qui marchent, qui tout de suite vont sonner juste. Et après, c'est comme vous l'avez dit, c'était vraiment le lien au déchiffrage. Je pense qu'il y avait quelque chose de très ludique pour moi de m'amuser à apprendre une nouvelle langue et de voir que voilà, tout ce qui est visible sur une partition est quelque part sur le piano et de manière très délimitée et claire. Et
ça, vous apprenez très vite, en fait. C'est quasiment concomitant, la lecture des notes. Et
oui, j'ai appris très vite parce que c'était vraiment la chose qui, je pense, me passionnait quand j'étais petit. Donc, c'est la première chose. Il fallait tout de suite pouvoir lire. Et même si c'était la méthode rose, il fallait que je lise toute la méthode rose en une journée. Il fallait que, voilà, c'était un besoin, mais que j'ai encore. Hein, c'est un besoin d'emmagasiner le plus de choses. Et du coup, je sais que ça reste même aujourd'hui de voir lire le plus de choses, voir le plus de choses, même si c'est impossible, mais ça me frustre, donc j'ai plein de listes de choses à voir et de choses à faire et même si je pourrais pas les faire, mais voilà, je me dis non, il faut que j'y arrive, il faut que je trouve un moyen. Et bon, c'était ça aussi, même petit sur le piano.
Ouais, parce qu'il y a un répertoire vertigineux. Vous n'avez pas choisi un instrument qui est un peu court en termes de répertoire. Donc là, c'est sûr qu'il y a une forme de deuil à faire quasiment dès l'origine.
Oui. Il y a un deuil total qui n'est pas agréable, forcément. Mais en même temps, après, il y a une belle possibilité de se trouver rien que par les choix de programme, en fait. Rien que par le choix des pièces qu'on va apprendre, ça crée presque intégralement notre voix. Des pièces vont demander un travail sur d'autres parties de notre corps, un travail sur se plonger dans une période avec un compositeur, une culture et un type de son. Et donc, c'est vrai que ça va, rien que de se dire j'ai envie de travailler ça et de le faire, ça façonne naturellement quel type de musicien on va être. Et donc, il y a peut-être, oui, un rapport où ça vient de... On a au moins cette responsabilité en nous. Et du coup, il y a quelque chose de grisant d'avoir cette autonomie, au moins, d'avoir cette liberté de... certains instruments, ils passent obligés par une base quasiment commune avant de pouvoir petit à petit s'extirper. Au piano, il n'y a pas de base vraiment commune. Enfin, même si on pense que, ok, oui, il y aura peut-être les Anciens et Nouveaux Testaments avec Bach et Beethoven, mais à part ça, et même encore, parce que je le vois avec le peu de sonates de Beethoven que j'ai joué en public, donc on n'a pas voilà, cet ancrage de maison et après on peut s'en échapper, c'est directement, on est plongé dans le grand océan de la musique.
Thank you. quand vous nous parlez de votre impatience. Est-ce qu'il y avait aussi ce désir comme ça d'aller vite, mais d'aller vite, pas juste vite en lisant beaucoup de choses, mais vite aussi sur le clavier? Est-ce que ça faisait partie d'une griserie particulière?
Ouais, vous m'avez bien cerné. J'avais ça, oui. C'est plus une sorte de péché de préadolescence, de voir l'instrument comme... pas quelque chose de sportif, mais quelque chose de pour se dépasser soi-même, en fait. Oui, il y avait ça, et puis ça allait un petit peu avec mes mains, parce que j'avais des mains qui allaient vite, avec aucune consistance. C'était vraiment des mains souples, mais elles tombaient, la moitié des notes sortaient pas, j'avais aucun timbre, aucun ancrage dans le clavier, mais voilà, je pouvais aller vite et facilement, et donc j'en profitais, et donc je jouais des pièces qui pouvaient faciliter mon goût pour le risque et pour le cette sorte de vélocité, parce qu'à l'époque c'était vraiment pas de la virtuosité, je pensais beaucoup plus banal dans ma tête, c'était cet amusement d'aller se dépasser. Et je pense que c'est pour ça qu'au début, le premier pianiste que j'aimais, c'était, et pareil pour les mauvaise raison, en fait, c'était Shifra. Et je voyais que la partie folle, impétueuse, prise de risque totale, démoniaque, avec ses transcriptions qui étaient totalement irréelles et qui paraissaient inhumaines, en fait. Et maintenant, j'aime toujours énormément Shifra, et plus pour si, pour la partie instinctive, Rhapsody, qui allait directement toucher le cœur quand il jouait Fantaisie hongroise de Liszt en live. Il y a quelque chose qui tient de... C'est comme si on peut voir Liszt, on peut se dire que ça aurait été peut-être comme ça que Liszt l'aurait fait, avec toute l'improvisation et tout le jet de folie dans le moment, et en plus la sens du rythme et tout ça. Et donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus complet, Shifra dans ma tête, mais à l'époque voilà, c'était un peu bête. Et je pense que j'ai eu des bons professeurs qui ont réussi à canaliser ça et à le transformer, à commencer à montrer vraiment ce qui me manquait cruellement, parce que vraiment j'avais des bases terribles de son, de polyphonie, d'indépendance des mains, et toutes ces choses-là, elles sont ensuite allées naturellement. Et je me rends compte même, c'est quelque chose que je fais souvent, un peu dans le désordre, c'est-à-dire d'abord, même quand je commence une pièce, je la joue avec tous les mauvais réflexes, avec les mauvais doigtés, avec les mauvaises choses, mais je veux aller très vite et la voir à peu près en entier dans les doigts, et ensuite je détruis tout ce que j'ai fait petit à petit et je rebâtis un peu plus solidement, et je voilà.
C'est une manière, un besoin de l'éprouver dans son corps aussi, en fait, une première fois.
Ouais.
Pour après construire.
Il y a de ça, et je sais que c'est embêtant parce que du coup je prends vraiment des mauvais réflexes et ensuite ils sont durs à se défaire, mais oui, il y a ce besoin d'immédiatement avoir la pièce sous ses doigts et avoir le chemin du début jusqu'à la fin et de l'éprouver effectivement. Et je pense peut-être que quand j'étais petit, c'était un peu la même chose, c'était d'abord aller vite avec des grandes pièces, avec des choses sans passer par ce travail dans le détail. Ce travail dans le détail, je l'ai fait bien plus tard, je l'ai fait et je continue à le faire encore.
Après, je vais dire, c'est peut-être aussi un peu normal quand on est enfant. Vous nous parlez d'une découverte du piano à l'âge de 3, 4, 5, 6 ans. On n'est peut-être pas encore à l'âge du détail et à l'âge de la déconstruction. On est dans un âge aussi d'instinct, de plaisir, ouais. Même très sensuel aussi, une espèce de jubilation comme ça aussi, évidemment, avec l'instrument, comme dans ce fameux Tom et Jerry où vous partagez avec Lang Lang cette fascination de tout petit enfant à avoir vu ce fameux épisode de la deuxième Rhapsodie hongroise et à vous dire que c'était peut-être ça la joie du piano aussi.
Oui, c'est clair. C'est une sorte d'humour qu'en même temps on peut avoir dans la musique qui peut se perdre à force avec les épreuves, avec le travail, avec la pression de vouloir en faire sa vie, son métier. Et oui, donc je suis content qu'au moins j'ai toujours ces souvenirs d'enfant qui sont quand même liés à l'humour aussi en musique, et ils sont vraiment importants. Et les compositeurs mettent tellement aussi d'humour dans leur musique que ça fait partie naturellement de la vie musicale. Mais oui, ce Tom and Jerry était marquant pour moi. Il représentait, je sais même pas si c'était l'envie d'être sur scène, je suis même pas sûr. Je sais pas qu'est-ce qui m'attirait tant. Je pense que c'était peut-être juste de le voir, de savoir que le piano était à la maison et que peut-être je pouvais faire la même chose ou que ça pouvait être aussi joyeux. Et donc, en tout cas, oui, je voulais le jouer. Je voulais jouer cette pièce. J'avais demandé, je vous l'avais dit, à mon père de faire un arrangement de la pièce, enfin jusqu'à ce que je puisse plus la jouer, donc la première page, mais ça me suffisait. Et du coup, même de prendre les mimiques de Tom, de faire le pianiste très sérieux dessus, ça me plaisait bien.
Thank you.
violoniste, on l'a dit, chef d'orchestre, d'une famille d'origine russo-juive. Votre mère, elle, est d'origine anglaise. Ouais. Vous avez parlé d'apprendre une langue en apprenant la musique, mais est-ce que vous aviez différentes langues à la maison? Est-ce que votre mère, par exemple, vous parlait l'anglais?
Oui, j'ai grandi avec le français et l'anglais en même temps. J'ai beaucoup quand même de culture anglaise, surtout dans la nourriture. Le petit déjeuner, c'était vraiment les œufs, la marmite. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Ouais, voilà.
Si on n'est pas anglais, c'est difficile.
C'est très difficile. Mais même pour les Anglais, hein, leur slogan, c'était « Vous l'aimez ou vous le détestez hein, ». Donc, ça, même les Anglais s'en disent long sur ce qu'ils pensent de la marmite. Mais oui, le gâteau de Noël anglais, le custard aussi, hors dessert. Donc oui, et j'allais beaucoup en Angleterre voir mes grands-parents. Il y a eu vraiment le mélange des deux. J'ai perdu, je pense, en tout cas tout mon anglais, et c'est un peu volatilisé après à l'école, en tout cas mon accent anglais, au grand dam de ma mère alors qu'un accent british c'est bien quand même en fait. Et non, maintenant c'est plus Jean Dujardin qui parle anglais qu'autre chose. Mais j'ai grandi avec les deux et c'était une vraie chance d'avoir, de toute façon, je pense, des choses jeunes, d'avoir différentes langues, différents voyages. Je voyageais aussi beaucoup avec mes parents, même parce que j'accompagnais mon père en tournée. Avant de commencer l'école, ils ont dû m'emmener partout en Europe. Je protégeais le violon en poussette, il était sous moi, donc c'était moi qui me prenais le soleil et pas le violon, c'était important. Et oui, voilà, je me souviens de quand même quelques voyages, je me souviens du plaisir aussi de voir mon père sur scène. Ça, je m'en souviens bien. Ça, c'était quelque chose de fort. C'est peut-être mes premiers souvenirs de concert. C'est de le voir jouer.
De le voir jouer ou de le voir diriger? De le voir jouer?
Ah, moi, je me souviens des deux. Oui, de le voir diriger aussi quand même. Au violon, je me souviens de concerto. Je me souviens de Beethoven. Je me souviens de lui travailler beaucoup le concerto de Beethoven et de le jouer. Et en orchestre, il avait fait un deuxième de concerto de Brahms avec Christian Zacharias, je me souviens. Et pareil, je devais avoir 5 ans, un truc comme ça, 6 ans. Et ça, voilà, pareil. C'était tout le processus, en fait. C'est d'aller se préparer, d'aller au concert. C'est une journée vraiment particulière, le jour d'un concert. Mais même pour quelqu'un qui va l'écouter. Et c'est ça que je commence aussi à me rendre compte, et ça fait partie des choses qui font que la journée est aussi particulière, même pour moi, vis-à-vis de l'interprète, ce sort de trac qu'on a avant le concert. Je me rends compte aussi de plus en plus, il y a cette chose de quand même, on prend en otage beaucoup de gens, en fait, qui font des plans pour la soirée, qui emmènent leur famille, ils prennent un resto, ils prennent un bar avant, après. Donc, c'est beaucoup de temps et d'efforts qu'ils mettent dans nos mains. Et donc, ça explique aussi, je pense, ce sentiment quand même de magie qui reste, même avec autant de concerts, et même avec, on pourrait se dire que là, avec l'habitude, ça disparaîtrait. Je pense que c'est vraiment ce rapport que, voilà, c'est quand même des vies entières qui viennent ici à ce moment-là, et donc viennent pour une raison.
Ouais, c'est une responsabilité.
Ouais, totalement. Ça crée la magie aussi. Ça fait que c'est pas une répétition, juste on fixe des choses et ensuite on se dit ok, maintenant on a plus qu'à appliquer la formule, on l'a testé avant et ça marche, et voilà, et ça vient de ça aussi beaucoup, je crois.
France Musique, les grands entretiens d'Alexandre Kantorov.
Quand vous parlez de la magie, je crois que c'est drôle parce que c'est quelque chose que vous aimez bien, la magie. On a beaucoup parlé de musique dans cette petite enfance, mais il n'y avait pas que la musique, parce nous dites très bien d'ailleurs qu'elle s'ancre d'une façon beaucoup plus profonde davantage à l'adolescence, qu'à la petite enfance, c'est un terrain de jeu et d'expérience comme d'autres, en fait.
Oui, c'était, je faisais plein de choses. Il y avait le tennis aussi, beaucoup. J'en ai fait pendant 8-9 ans et ça faisait partie aussi de ma vie d'après-cours. La magie, c'est venu un peu plus tard, mais c'était quelque chose qui m'avait, je sais pas comment, fasciné. Ensuite, je suis jamais allé prendre un cours, mais j'ai passé, pareil, bien 8-10 ans de ma vie à juste petit à petit apprendre qu'avec des cartes à faire des choses, et ça me plaisait. Peut-être c'était autre chose à faire de mes mains, qui soit pas du piano, et peut-être c'était aussi au moment où c'est arrivé, je pense, au moment où j'ai eu mon premier professeur, Igor Lasko. C'était le premier professeur à me mettre en face des responsabilités d'un interprète, et c'est le premier à me dire est-ce qu'on en fait sérieusement ou pas. Et peut-être c'est justement parce que soudain le piano prenait une ampleur plus importante et un peu plus vertigineuse, que du coup je voulais garder quand même autre chose à faire mes mains, mais qu'ils soient un peu plus amateurs, et de retrouver la partie facile, le jeu, sans penser à quoi que ce soit d'autre dans le futur. C'était peut-être ça, je sais pas. C'était peut-être le goût du spectacle, aucune idée.
Alors si on remonte le fil des professeurs, il faut parler du premier.
Bien sûr,
le premier professeur que vous avez eu entre 5 et 8 ans,
ouais.
Dominique Kim.
Absolument, ouais.
Qu'est-ce
ouais.
qu'elle vous a apporté? Parce que c'est crucial, j'allais dire, le premier prof.
Oui. C'est, elle a apporté la chose que tous les enfants devraient avoir. C'est le jeu, l'amour de la musique, la bienveillance. Elle a réussi à avoir tout ça tout en me donnant des bases sans que je m'en rende compte, en fait. C'est ça qui est très fort, en fait. Elle avait un peu le rôle de deuxième maman à mesurer à chaque semaine sur... Elle offrait toujours des chocolats, des petits cadeaux. Il y avait vraiment cette jolie atmosphère dans sa classe. C'était vraiment une sorte de cocon très chaud, on se sent en sécurité. Et elle me faisait vraiment travailler. Elle avait vraiment une grande connaissance de la pédagogie. Et donc ça, je sais que c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qu'on voit avec la plupart des enfants quand on en parle, parce que beaucoup de gens font le conservatoire, beaucoup de gens commencent la musique et on voit la différence. Ceux qui continuent et ceux qui ont arrêté, c'est presque quasiment tout le temps une sorte de mauvaise expérience ou d'un trauma qui vient de l'enfance vis-à-vis de soit la peur du professeur, soit la peur d'un examen, soit la peur de quelque chose, mais il y a ce blocage qui peut se faire jeune et qui ensuite peut entièrement annuler une vie musicale. Et donc oui, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance que j'ai eu la bienveillance incarnée en Dominique Kim. Et après, j'ai passé 4 ans avec elle et ensuite, c'était le conservatoire du 10e
ouais.
avec Marc Bensoussan. J'ai passé 2 ans. Là, j'avais plus... il commençait à avoir tout l'ensemble, le package du conservatoire. Avec,
là, vous avez 9-10 ans à peu près.
Ouais, j'ai 9-10 ans et c'est la vie du conservatoire, c'est les étudiants, on y va, on a des cours, on a le solfège, on a la théorie, on a la première communauté un peu d'enfants aussi qui font de la musique, parce que c'était quelque chose que j'avais pas, j'étais pas dans une école de musiciens, donc c'était le seul moment où je me retrouvais. Et ensuite, la première personne, je pense, marquante musicalement, c'était Pierre-Alain Volonda, véritablement. C'est très étonnant. Il était professeur dans la commune, à Montmorency, où on habitait avec mes parents. Et voilà, ce sort de musicien, ce monstre de musicien qui était juste là, dans la ville où je grandissais. Et il y avait vraiment une proximité avec la famille. Et puis, voilà, mon père dirigeait beaucoup de ses œuvres au Folle Journée.
Il est compositeur aussi.
Oui. Ils ont fait beaucoup de concertos ensemble. Et donc, j'ai eu la chance, ensuite, pendant un an, il est venu à la maison et il me donnait quelques cours. Et là, c'était la première présence d'un grand musicien, en fait. Enfin, à côté de moi, un grand musicien pianiste, un artiste, en plus, le plus exubérant le possible. Il passait 50 minutes sur une heure à s'amuser, vraiment, à juste jouer, improviser, faire des blagues, juste faire un sketch, faire son show. Vraiment, c'était juste lui qui s'amusait. Et après,
vous, qu'est-ce que vous en retiriez alors?
J'en retirais une sorte d'impression de grandeur, parce que quand même c'était une personnalité immense, avec sa grande barbe et tout, il y avait une vraie figure sortie de l'espace qui arrivait, en fait. Et puis en même temps, des moments tellement concret, où en 5 minutes, soudain, il y a vraiment un vrai aspect technique où que le bras, il devait suivre le poignet, en fait, par exemple, quand on montait dans les aigus, ou alors il disait, on a tendance, quand on veut jouer piano, à s'éloigner du clavier, au contraire, c'est le moment où il faut être le plus présent, se rapprocher, et vraiment là, contrôler le plus le son, et au contraire, quand on se détache de l'instrument et qu'on veut jouer fort, tout le corps, donc on peut se reculer... Des choses bêtes, mais qui sont restées, et voilà, il a, je pense, c'était sa présence, et de me rendre compte, voilà, d'un grand pianiste. Ça coïncide avec le moment où ensuite je suis allé rencontrer Igor Lasko, qui était là, on a parlé, voilà,
ouais.
Vraiment le professeur qui
Ça, c'était à la Scola Cantorum.
À la Scola Cantorum, ouais. Et c'est lui qui m'a posé les bases, c'est lui qui m'a reformé, montré la main, beaucoup de choses, me rendre compte de mes problèmes de son, clairement, qu'il fallait se rendre compte de comment on creuse un son, comment on timbre, comment on écoute une mélodie longtemps, comment on gère plusieurs voix en même temps, c'est tout. Et voilà, une responsabilité de ces petits détails dans une œuvre font la différence.
Là, vous avez quel âge quand vous rencontrez
11 ans, 12 ans, ouais, quelque chose comme ça.
Et... Donc vous êtes à l'époque au collège ?
Ouais, je suis au collège.
Et la musique est encore un loisir parmi d'autres. Il y a encore du tennis à côté et
bien
d'autres
sûr.
Choses.
Ouais.
Et au collège, un intérêt particulier pour les études aussi, j'allais dire scolaires.
Ah oui, totalement. C'est pas du tout encore clair dans ma tête que ça va devenir mon métier. Il m'a provoqué, je me souviens, Igor, quand je suis allé le voir. J'avais joué Carnaval de Schumann. Et voilà, il m'a dit « Ok, intéressant. » Et puis, tu vas en faire sérieusement du piano et tu vas te mettre à bosser ou est-ce que tu veux juste qu'on se la joue amateur et c'est tout. Et là, vraiment provoqué, j'ai fait, non, je veux être sérieux, je veux être pro, t'inquiète pas. En fait, c'est pas du tout, je pense pas un mot de ce que je dis, mais voilà, je suis provoqué par le fait qu'il me juge un peu et il me dise, ouais, vraiment, il me montre que, en fait, t'as un chemin encore énorme à parcourir et que là, pour l'instant, t'es vraiment encore un bébé qui se donne pas. Et donc, ensuite, là, ouais, je pense un peu piqué au jeu, j'ai commencé à mettre plus d'efforts dedans, à passer plus de temps au piano et à travailler beaucoup plus de répertoire et commencer enfin à me rendre compte de la différence, de ce que, effectivement, un petit détail, ça peut faire quelque chose. Et qu'il y a un plaisir qu'on en tire quand même à la fin d'une interprétation où on sent qu'on a trouvé quelque chose de mieux. On a fait un peu mieux. On a compris, on a un passage qu'on, normalement, on jette toujours un peu dans le vide et on se dit, bon, bah, j'ai 30 secondes d'enfer à passer et après, c'est bon, je connais. Là, enfin, le plaisir d'avoir à peu près compris aussi l'ensemble de la pièce. Et donc là, voilà, il m'a montré beaucoup de répertoires. Il y a beaucoup de répertoires russes aussi que,
C'était votre premier contact, en fait, avec cette école russe du piano.
Totalement. C'était le premier contact. Premier contact avec vraiment le répertoire et la culture. Parce qu'on travaillait aussi beaucoup au conservatoire Scriabine à Paris, où là on a l'impression de se téléporter en Russie, en fait, avec ces salles de classe toutes vieilles. On ne sait pas, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de bureau, on ne voit jamais quoi que ce soit. On voit juste des salles de cours fermées entièrement. Et voilà, des petits box, et là, il y a des professeurs qui sont là-dedans. Et donc, ouais, je me souviens juste de cette sensation-là. Et dans cette toute petite boîte avec juste un piano, voilà, de commencer à me développer. Et lui, il faisait partie de l'idée qu'il y avait beaucoup de pièces que je devais apprendre jeune, des pièces difficiles, des pièces qu'une fois qu'elles sont ancrées, elles resteront à vie en fait à cet âge-là. Alors que il y a des œuvres qui seront beaucoup plus difficiles pour les doigts à apprendre plus tard. Donc il m'a fait apprendre des études de Chopin, il m'a fait apprendre Islamé, Balakirev, il m'a fait apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs du coup, un de mes premiers disques c'était sur des œuvres de musique russe. C'est quasiment que des œuvres que j'ai travaillé avec lui en fait.
C'est comme une dédicace. Islamet de Balakirev par Alexandre Kantorov. Ainsi se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec le jeune pianiste français. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Rock et disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.